Bon anniversaire au Mac. Ce 24 janvier 2024 marque le 40e anniversaire du Macintosh, l'ordinateur personnel qui a vraiment révolutionné l'informatique. Retour sur ce lancement avec l'un de ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, qui a même eu l'un des trois premiers Mac en France. J'ai nommé notre Élie Habitbol.
On ne pouvait pas en parler, ni à nos copines, ni à nos autres employés, ni à personne. Et pour rentrer dans un avion, heureusement, ce n'était pas les mesures de sécurité d'aujourd'hui, parce que ça, ça ne passait pas. Hein. Donc, un Paris-Nice avec le truc en cabine à côté de moi. Et donc, j'ai débarqué comme ça dans la société. Et pendant 6 mois, on a un local aujourd'hui qui était une ancienne Société Générale. Et donc, il y a le coffre de cette banque. Donc, on a mis ce Mac. Et donc, les gens nous voyaient arriver le matin, nous enfermer dans le coffre. Et ressortir quelques heures après, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous tous les deux. » Ils disaient « Qu'est-ce que vous faites ?»« Non, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous en parler. » Et donc, pendant 6 mois, on a travaillé sur ce proto. On discutait beaucoup, évidemment, avec Apple. Et le lancement du Mac en France, c'était à Nice, donc c'était bien. Et donc, on a pu présenter parmi les 10 applications françaises, la moitié était à nous.
Week-end de folie pour le Vision Pro. Une heure après l'ouverture des précommandes, les livraisons étaient déjà renvoyées au mois de mars pour un lancement prévu le 2 février. Ming-Chi Kuo annonce 160 à 180 000 exemplaires vendus en 3 jours. C'est près de 25% du total prévu par Apple sur toute l'année 2024.
C'est un lancement réussi. Il n'aime rien tant que les délais de livraison à 5, 6, 7 semaines. Comme c'est actuellement le cas, et encore, c'est dispo uniquement pour les États-Unis, et ils ont fait des démarches, ils ont mis des petits trucs pour éviter le marché gris.
Retour sur ces précommandes et sur le lancement à venir du 2 février, avec de nouvelles infos. Et puis le bonus hebdo exclusif, cette semaine, le vrai faux lancement d'Apple Classical dans CarPlay. Pour profiter de ce bonus, rendez-vous dès maintenant sur patreon.com/iWeek. Salut à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, en ce mardi 23 janvier 2024. Je m'appelle Benjamin Vincent et aujourd'hui on va faire un grand bond 40 ans en arrière pour commencer à célébrer ce 24 janvier 1984. Ce fameux jour où Steve Jobs dévoila le Macintosh devant les investisseurs d'Apple avant de revenir 6 jours plus tard, et on va entendre des extraits de cette intervention en public. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on compte dans l'équipe la mémoire vivante de l'histoire d'Apple, en tout cas en France, puisque tu fus l'un des 3 premiers à découvrir le Mac dans notre pays, et donc avant tout le monde, n'est-ce pas Élie Habitbol? Salut.
Bonjour Benjamin, bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Et oui, maintenant il y a prescription, on peut en parler. À l'époque, il y avait des NDA très sévères, mais c'est vrai que j'ai pu toucher un Macintosh 110 volts l'été en 1983. C'était pas hier.
Là. Donc c'était avant qu'il soit dévoilé officiellement.
6 mois avant, oui.
6 mois avant. Tu vas nous raconter tout ça et on va revenir sur ce lancement, évidemment. On va partager aussi avec vous nos souvenirs de Mac, notre premier Mac. Alors, on va pas entrer dans les détails, mais Gilles, salut, Gilles Dounès. C'était quoi ton premier Mac à toi?
Salut, Benjamin Vincent. C'était un Mac 512 que j'ai déballé le 10 décembre 1984, que j'ai attendu pendant 3 ou 4 mois. Parce que c'était un peu la pénurie, un tout petit peu comme on est parti pour connaître avec le Vision Pro, n'est-ce pas Élie?
Eh oui, mais à défaut d'avoir le masque, on va peut-être vous montrer la boîte.
Oui, peut-être, on va en reparler en tout cas. En tout cas, Gilles, tu étais vraiment parmi les early adopters, hein, parce que tu as eu ton premier Mac en 1984, donc l'année du lancement du Macintosh. Moi, c'était bien après vous, hein, puisque c'était, je crois, en 90 ou 91 avec le Mac LC et un écran couleur, hein, et un modem offert en cadeau par mon revendeur Apple à l'époque.
Holitech
56K. Peut-être, oui, sans doute Holitech. Alors, on commence par l'info de la semaine avant de parler du Mac. Cette info de la semaine, elle concerne évidemment l'ouverture des précommandes du Vision Pro. C'était vendredi 19 janvier. Près de 200 000 exemplaires déjà vendus selon Ming-Chi Kuo. Est-ce que ce chiffre vous a étonné, Élie et Gilles ?
Non.
Oui et non, c'est-à-dire connaissant les fans d'Apple, ils sont capables de tout. Hein. Ils ont peut-être vendu leur maison, ils ont peut-être, je ne sais pas, ils sont prêts à tout pour pouvoir avoir le dernier produit.
Ouais, bon, on avait dit qu'il y avait 88 000 unités exemplaires dispo.
Pour le lancement, oui.
Ouais.
C'est ce qu'a dit Ming-Chi Kuo, nous, ouais. On n'en sait rien. Hein.
C'est ce qui explique que dès la première heure, les délais ont commencé à glisser sur le mois de mars.
C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je pense que là, on est en plein ramp-up. Hein. Donc, les 80 000 ou 88 000 hein, qu'avait cité Ming-Chi Kuo, c'était ce qui avait été produit pour le lancement. C'est le genre de vraiment les trucs qui étaient là, hein, qu'on pouvait presque toucher dans les entrepôts. Après, comme ils ont vu les commandes grimper à une vitesse de la lumière, ils ont dû dire aux usines « Allez-y les gars, allez-y !» Donc, c'est bon, ça part.
Mais ça veut dire, ça veut dire que le 2 février, si on se pointe à l'Apple Store à l'ouverture, il n'y aura pas de Vision Pro à acheter.
Il y en aura quelques-uns.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sauf s'ils en ont gardé quelques-uns pour faire le buzz, bien sûr. J'ai la raison.
Pour
c'est
ceux
possible.
Qui ont fait la queue la nuit.
Il faut que les gens puissent sortir triomphalement avec leur boîte sous le.
Devant toutes les chaînes de télé.
Sous ouais. Les vivas des gens qui font la queue. Enfin, c'est le folklore, pas point org, mais le folklore habituel de d'Apple. Alors, il y avait un clin d'œil là pour nos fidèles, et ils ont des invitations Blue Sky à gagner s'ils ont trouvé l'astuce.
Oula.
Oula.
Alors, je ne l'ai pas vu passer, moi. Personne.
Moi non plus. Mais bon si
on
nos
va
auditeurs
réécouter,
l'ont vu...
On va réécouter le replay, parce que là, j'étais pas concentré sur le jeu, la devinette de Gilles. Bon, 200 000 exemplaires quasiment, hein, on serait à 180 000 selon Ming-Chi Kuo. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un succès ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut dire à votre avis ?
C'est un lancement réussi. Il n'aime rien tant que les délais de livraison à 5, 6, 7 semaines, comme c'est actuellement le cas. Et encore, c'est dispo uniquement pour les États-Unis. Et ils ont fait des démarches. Ils ont mis des petits trucs pour éviter le marché gris. Mais oui. Alors, il y a le.
C'est-à-dire. Le fait qu'on ne puisse pas l'acheter à l'international, c'est par exemple. C'est pour éviter que des Russes ou des Européens aillent l'acheter aux États-Unis pour le revendre 5 fois son prix. Mais il y a déjà des enchères sur eBay à 10 fois le prix du casque. Hein. Donc, c'est...
Alors, attends, je comprends ce que tu as dit, mais il n'y a rien qui empêchait de le précommander et d'aller le chercher aux US ou de le faire retirer par quelqu'un.
Non, mais on ne peut pas faire tourner n'importe quel contenu n'importe où, ne serait-ce que pour des raisons légales. Des raisons, des justifications de droit, telle ou telle chronologie des médias, par exemple, en Europe et en France. Et donc, ils ont mis en place de quoi éviter que les gens, les différents ayants droit et sociétés d'auteurs ou de producteurs se retournent vers eux.
Ouais, mais avant ça, rien qu'au niveau de l'OS, on sait qu'il sera. Par exemple, dispo qu'en anglais au début. Hein.
Oui. Et il faut avoir un compte Store US pour pouvoir se loguer. Il faut avoir un Apple ID US.
Bon, ça, c'est facile. On peut le créer très facilement, l'Apple ID US.
Bien sûr.
Ah, le blocage, il est où alors ? Qu'est-ce qui
il
empêche ?
Il est dans les contenus. Concrètement. Dans les contenus qu'on peut pas lire sur un OS en se connectant n'importe où. Mais je voulais revenir sur ce qu'avait dit. Élie et le compléter, il n'y a pas seulement les fans d'Apple et qui sont prêts à acheter n'importe quoi et solder leur plan de retraite pour pouvoir s'offrir la dernière nouveauté. Il y a aussi tous les gens qui ont la perception de ce qui se passe. Quelque chose vraiment d'inédit qui arrive tous les 20 ans ou tous les 40 ans avec ce nouveau système et cette nouvelle façon de créer, de travailler et de consulter des contenus multimédia. Il y a une vraie on parlait tout à l'heure de révolution in the valley. C'est encore une fois ce qui est en train de se passer.
Alors restons très concrets parce que par exemple je vois dans cet article de Mac Forever qu'il est question de d'un VPN par exemple pour pouvoir passer certaines restrictions géographiques. VPN sur Vision Pro, pour l'instant, ça n'existe pas, à ma connaissance.
Non, sauf si une des applis de style iPad peut fonctionner dessus en mode 2D et pas 3D. Parce que si, par exemple, prenons NordVPN ou ExpressVPN, ils n'ont pas mis de restriction, l'application peut se charger sur le Vision Pro. Donc, ce ne serait pas impossible.
Il me semble qu'il y a la possibilité aussi de le mettre sur un serveur, c'est-à-dire celui qui va servir de proxy et en quelque sorte tromper éventuellement Vision OS. Pour moi, c'est une possibilité, mais c'est pas un sport de masse non plus.
Bon, en tout cas, on peut faire d'ores et déjà une mention spéciale à ceux qui vont l'acheter en pensant le revendre dans 20 ans et qui ne vont pas ouvrir la boîte. Mais là, ça va être très difficile, puisque comme il est fabriqué à la limite pour vous, la boîte sera ouverte. Hein, donc...
C'est ce que je me suis dit.
Et puis, ça ne servira à rien, puisque il va y avoir des fuites de lumière, etc. Il ne sera pas au standard, il ne sera pas à la morphologie du nouvel utilisateur, de l'acheteur. Et c'est également valable pour les gens qui vont acheter sur eBay des choses qui vont pas utiliser de façon optimale.
Ouais. Alors, je pense que le Vision Pro qu'on se fait expédier sera cellophané. Hein.
Probablement oui.
Celui qu'on a acheté en Apple Store, peut-être pas, mais...
Probablement oui, et d'ailleurs Apple a même dit que si vous vous êtes trompé en faisant vos mesures avec l'outil, etc., vous avez quand même un droit à l'erreur, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans un Apple Store en expliquant qu'il n'est pas parfaitement calé et dans lequel cas ils vous proposeront à la place, pour ce prix-là, l'équipement qui va bien en échange.
Ouais. Alors, il y a un autre détail sur un peu la restriction géographique, c'est qu'on a aussi appris que Zeiss n'expédierait les corrections oculaires qu'aux États-Unis aussi.
Absolument.
Ça, c'est chiant.
Pour ceux qui utilisent des corrections, oui, bien sûr.
Bah oui, ou alors faut se faire envoyer les corrections chez un contact, un ami ou de la famille qui aura récupéré le Vision Pro pour vous et qui pourra vous transmettre les deux.
Mais surtout, ils n'acceptent que des ordonnances d'opticiens, enfin, américains. C'est-à-dire que si vous arrivez avec votre ordonnance française... Non, ça passe pas.
Ouais.
Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui ont un plan d'assurance santé qui coûte la moitié de leur salaire, dans certains cas, les compléments optiques sont remboursés par certaines sociétés d'assurance.
Ouais.
Par les mutuelles.
Ça peut expliquer le retard aussi. Dans une partie du retard dans les autres pays où il doit y avoir des négociations avec un certain nombre de complémentaires ou d'assureurs santé et de caisses.
Tu dis ça au moment où passe une ambulance, c'est toujours très bien synchronisé le son d'ambiance dans iWeek. Bon, à propos de ce Vision Pro, alors Apple a annoncé que plus d'un million d'apps seraient utilisables au lancement.
Oui.
Là-dedans, il y a une énorme majorité d'applis iPad qui seront compatibles avec le casque. Ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les applis dédiées, les nouvelles applis. Et Bah, y a une sorte de petit groupe d'opposants au masque d'Apple,
oui.
Qui a clairement annoncé qu'il ne travaillait pas et ne travaillerait pas sur une app dédiée au Vision Pro. Je pense notamment à Netflix, à YouTube et à Spotify.
Oui, et qui ont même dit qu'ils bloqueraient l'installation, puisque le développeur peut choisir sur quelle plateforme. Donc, par défaut, elles sont toutes cochées. Mais là, ils ont dit qu'ils feraient en sorte que ça ne puisse pas s'installer, même en mode compatible iPad sur le Vision Pro. Mais par contre, si vous voulez utiliser la version qui fonctionne à travers Safari, celle-là marchera. C'est le cas de Netflix, c'est le cas de Spotify. Et la troisième, YouTube aussi, bien sûr. Donc, les trois peuvent marcher à travers Safari.
Ouais, mais c'est pas forcément l'expérience optimale pour le Vision Pro.
Non.
Et oui,
mais c'est déjà le cas aujourd'hui pour par exemple Netflix, qui n'a pas d'appli native sur Mac, par exemple. Ça ne marche qu'à travers le web. Et moi, j'avais fait l'essai sur un Mac M1 d'installer la version iPad. Au début, ça marchait, mais depuis, ils l'ont bloqué. Maintenant, ça ne marche plus.
C'est parce qu'ils sont en concurrence frontale avec Apple à un degré ou à un autre. Ils n'ont aucune envie de favoriser un succès de Cupertino, et voire ils ont éventuellement un fer au feu de ce côté-là, et donc ils n'ont pas envie de favoriser un concurrent et d'avoir une sorte de moment iPod avec, comme en 2005, où il y aura un appareil qui va écraser toute la concurrence et qui va devenir le standard absolu que les gens se détournent de leur appareil.
Ils prennent un risque aussi, hein. Ils peuvent perdre des abonnés. Hein.
Ils peuvent perdre des abonnés, mais il sera toujours temps de faire machine arrière et d'aller à Canossa.
Gilles,
il passe dans l'autre sens.
Dis-leur que tout va bien, parce que j'ai l'impression que tu as deux ambulances qui arrivent chez toi, là.
Il me semble qu'elle est passée dans l'autre sens.
D'accord, bon, bah, tant mieux. Bon, parmi les grands et les noms importants qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment fait preuve d'un enthousiasme démesuré, il y a aussi Google et Meta. Bon, Meta, c'est pas très surprenant.
Google a laissé tomber, mais il n'est pas dit que ils n'y reviennent pas un jour. Hein.
Oui, ça peut être un peu wait and see comment ça se passe.
Mais il n'y a pas non plus, je n'ai pas vu des apps très pro, à moins qu'elles marchent en mode compatibilité, mais je n'ai pas vu d'apps de montage, d'apps d'architecture, d'apps de manipulation de 3D, des choses comme ça. Hein. Donc, y compris d'ailleurs même chez Apple, hein. Il n'y a pas de Final Cut ou de... Et même chez Adobe, il n'y a pas pour l'instant de mention d'applications comme, j'en sais rien moi, Premiere ou After Effects ou des choses comme ça.
Pour l'instant, il n'y a aucune annonce d'Adobe. Mais il va sans doute y avoir pas mal d'annonces le 2 février.
J'espère.
Oui. Et puis, il n'y a pas une adoption, une masse critique d'utilisateurs susceptibles d'acheter ces applications qui coûtent très cher à développer ou à porter, susceptibles de justifier une annonce tonitruante en amont du lancement. Et donc, vous le disiez très bien, il est tout à fait possible qu'il y ait dans le communiqué de presse des poids lourds du secteur de la conception assistée par ordinateur ou des choses très très spécifiques du côté de la de l'informatique de recherche en biologie, en physique, etc., où Apple est historiquement très très présent et très en pointe.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de masse critique, comme tu dis, de marché, parce que bon, un peu moins de 200 000 précommandes sur le premier week-end, c'est encourageant. Je parlais de 800 000 tout à l'heure, c'est vraiment la fourchette haute. Hein, dans sa dernière newsletter, Mark Gurman est plutôt, lui, entre 300 et 400 000. Mm-hmm. Ça veut dire que là, on aurait quasiment vendu la moitié du stock de l'année.
Ce qui est un peu logique, parce que c'est à ce prix-là, les mecs qui peuvent se le payer, ils le veulent tout de suite.
Oui.
Donc, Effectivement, il y a eu un ralentissement apparemment des commandes. Donc, il y a eu l'effet du lancement et puis après un petit ralentissement. Mais par rapport à l'Apple d'aujourd'hui, ce n'est pas des chiffres énormes. Quand on va parler du lancement du Mac, je vous rappelle que le Mac, qui est un produit révolutionnaire, hein, et bon, certes, il coûtait à l'époque, c'était en francs, hein, donc 24 900 ou quelque chose comme ça, francs. Ils en ont vendu sur les premiers mois. La quantité de 80 000, et ça a coûté la place à Jobs, hein. 80 000, c'était pas un chiffre. Pourtant, à l'époque, 80 000 ordinateurs, c'est presque le dixième de ce qui se vend aujourd'hui, hein. Mais bon, voilà, Apple s'attendait à plus, et donc, mais là, on ne sait pas, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas en fabriquer plus, donc ils ne peuvent
Non.
pas s'attendre à grand-chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer.
Bon,
Avec
le 2
la.
février.
Avec la campagne marketing qui avait été mise en place par Sculé, c'est normal qu'ils aient été déçus. Mais je vous invite à regarder la petite vidéo qui décrit la fabrication du Vision Pro. C'est du travail d'horlogerie, d'orfèvrerie,
Ouais, c'est
entièrement
vrai.
automatisé en plus.
C'est sûr que ça fait rêver.
Après, il semblerait pour le Vision Pro qu'il faille faire très 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 attention parce qu'il semblerait que les prix de réparation risquent d'être astronomiques.
On a vu des tarifs à 2 500 euros, je crois.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Hein?
Il va vraiment falloir, il faut pas le confier à son enfant, hein.
C'est
Faut pas.
ça. Non, puis l'Apple Care Plus est quasiment indispensable. Hein.
À
Ça coûte
500
500
dollars.
euros,
Ouais,
500
c'est
dollars
ça.
pour 2 ans, ou 25 dollars par mois. Du coup, sans limitation de durée, on peut prolonger aussi longtemps qu'on paye. Avec, je crois, une franchise de 300 dollars par gros incident, mais c'est sûr que s'il y a un risque à 2 500 dollars de réparation, il vaut mieux avoir anticipé et réduit les risques pour un
Oui.
appareil de ce prix-là. Alors, le 2 février, c'est donc à la fin de la semaine prochaine, hein, ce sera vendredi 2 février, comme d'habitude, hein, vendredi, n'est-ce pas, Ellie?
Exactement.
Alors, on a appris des petits détails sur la manière dont ça allait se passer, avec dans une cinquantaine d'Apple Store américains, si j'ai bien compris, probablement les plus grands, un espace qui sera dédié aux démonstrations. Si j'ai bien compris, ce sera une sorte de corner, comme disent les Américains, avec un bout de moquette pour faire comme à la maison dans son salon.
Oui.
Et une sorte de banc recouvert de faux cuir, hein, parce que maintenant il n'y a plus de vrai cuir chez Apple, vous le savez, où les clients pourront s'asseoir pour essayer le Vision Pro, un peu dans les mêmes conditions qu'à la maison.
Oui. C'est voilà, ce sera le coin des riches. Tout le monde les regardera
C'est
derrière une
ça.
barrière avec envie.
C'est ça, le coin des riches. Bon, on parlait de la boîte, on évoquait la boîte tout à l'heure. On a une première image potentielle de cette boîte, Ellie.
Oui, absolument. On a vu ça sur les différents réseaux sociaux et tous les sites. Et ce qui est
Macromorse, hein,
incroyable,
notamment. Ouais.
oui. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une photo qui a été prise avec la boîte et le masque, donc déjà déballé, posé à côté. Et la boîte, elle est juste énormissime. Et donc, Internet s'est immédiatement lancé sur cette photo. Il y a eu sur X en particulier des discussions incroyables et des gens qui se sont amusés à faire des tas de dessins, des caricatures, etc. Il y en a un qui a fait la boîte ouverte et on voit que c'est la boîte du Vision Pro, mais c'est un montage, hein, avec 7 ou 8 petites boîtes qui arrivent jusqu'à une qui tient le Vision Pro, donc des boîtes en carton simple, hein, cette fois-ci, et avec un message en disant Apple, c'est comme ça que vous protégez l'environnement. Ça ne veut strictement rien dire, hein, mais parce qu'on ne
Mais
sait
c'est
pas
la
ce
plus
qu'il y a
forte
dedans.
raison.
Mais
La
c'est
plus
vrai
forte
qu'à une
raison, ça.
époque où Apple a tellement réduit la taille des boîtes de ses produits, pourquoi celle-là serait aussi volumineuse? On n'arrive même pas à comprendre
Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans,
à
c'est
quoi
ça qui est
sert tout
fou.
l'espace, entre guillemets, perdu.
Ben, chaque accessoire doit être protégé par de la mousse ou quelque chose, je ne sais pas. Apple sait faire des boîtes qui sont extrêmement petites, hein. Il faut regarder la façon dont est emballé un iMac
Ouais.
M3 d'aujourd'hui. C'est un prodige de calage de petits
Ah ouais.
trucs qu'on sort, etc. C'est juste incroyable, hein. Ou même la boîte d'un MacBook ou MacBook Pro. Donc pourquoi celle-là est tellement grande? Le problème, c'est qu'on a vu la boîte dans les photos fermée avec le masque à côté. Il faut attendre maintenant probablement le 2 pour voir un vrai déballage. Donc, parce qu'on va en avoir hein, des déballages, hein, ça c'est
C'est
sûr.
sûr.
Donc, pour voir réellement ce qui se passe à l'intérieur.
Ouais. Il y a
J'ai.
ça avec le fait que ça fait 20 ans bientôt qu'il n'y avait pas une keynote où Jobs ne vante la taille du packaging qui rétrécissait avec le nombre de palettes supplémentaires qu'on pouvait mettre dans un avion cargo
Oui.
pour chaque produit. Et là, on a une boîte énorme. Et on va parler du Mac tout à l'heure, mais il y a aussi l'aspect de la boîte qui est énorme et qui est un aspect janséniste, spartiate, on va dire minimaliste pour être gentil, mais il faut se souvenir de ce qu'était l'emballage du premier Mac, des premiers Mac, avec le Mac stylisé, le clavier et la souris, dans le style de Picasso et qui était tout juste sublime. Moi, j'étais sur le cul.
Oui.
Or là, on a juste la police de caractère avec Apple Vision Pro. Point.
Et
En
la
noir,
photo
sur
du
blanc.
masque. Et la
Et la
photo
photo
du
du
masque sur
masque.
le dessus.
Ouais.
Oui, c'est
Alors,
sobre.
si vous utilisez l'appli de l'App Store, alors, je sais pas si ça vaut que pour l'appli US, parce qu'on a vu qu'on pouvait accéder aux précommandes sans forcément tout basculer en système américain. Depuis là, la fin d'après-midi, sachant qu'on est le 23 janvier, il est 18h10 à Paris, vous pouvez faire apparaître le Vision Pro dans votre environnement, sur la table de votre salon ou la table basse de votre salon, par exemple, pour le découvrir et l'apercevoir sous toutes les coutures. Donc un Vision Pro en réalité augmentée, c'est ce que propose l'appli Apple Store. Il faut aller dans la section qui en anglais s'appelle View in Your Space, donc je pense visualiser dans votre espace, et vous pourrez faire apparaître le Vision Pro
Ils sont trop
virtuellement
forts.
devant vous comme par magie.
Et on
Exactement.
pourra verser quelques larmes en disant, pas cette année, pas cette année.
Alors cette année justement, Ellie, puisque tu en parles, on fête le 40e anniversaire du Macintosh, et cet anniversaire, il tombe, allez, à quelques heures près, ce 24 janvier 2024, 40 ans donc pour le Mac qu'on utilise encore aujourd'hui, qui a quand même beaucoup évolué, hein, si on le compare au Mac de 1984. On va revenir sur cette histoire et sur la manière dont vous deux avez découvert ce drôle d'ordinateur. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne le 30 janvier 1984. On est à San Francisco. Et pour la deuxième fois, Steve Jobs va présenter le Macintosh. Il l'avait fait 6 jours plus tôt. Ça, c'était vraiment la toute première fois devant les investisseurs d'Apple. Là, ce 30 janvier, c'est en public. Et voilà de quelle manière il présente les particularités du Macintosh.
The first thing is that Macintosh uses Lisa technology. It's got the identical user interface of Lisa with its radical ease of use, its mice, windows, pull-down menus, point, click, cut, and paste. And to accomplish this, we use exactly the same microprocessor as Lisa, a 68000 running at 8 megahertz, and this thing eats 8088s for breakfast. Macintosh has about 192K bytes of memory. 64K of it is ROM, 128K of it is RAM. And inside the 64K bytes of ROM is contained the entire operating system, the entire graphics foundation and subsystem, and the entire user interface. All the windowing stuff, the menu stuff, the mouse stuff, all in ROM. Just like the 5 1/4 inch disk was a breakthrough in the 70s, we think the 3 1/2 inch disk is a breakthrough in the 80s. and we're storing 400 KB of formatted information on one side of these floppies, which fit inside your shirt pocket. Macintosh has two built-in serial ports. These ports are RS-232 and RS-422. They go up to a megabit per second. And they also support a local interconnect scheme called AppleBus, which allows you to connect up to 32 of these products together at virtually no additional cost. Macintosh has four voice sound and speech built in. And it talks to you on an extremely high definition, super crisp, bitmap 9-inch black and white screen. It's really incredible, as many of you might have had a chance to see at the hands-on. We have one last hands-on at 9 o'clock tonight. This screen has over twice the dots of the IBM PC or Apple II on its screen. Very high definition. And all of this power fits into a box one-third the size and weight of the IBM PC. It's a truly transportable product. And in addition to that, there's a whole family of stuff that goes along with it. Image writer, printers, external disk drives, modems, carrying cases, and a sort of security kit so your Macintosh doesn't go anywhere without you. Now, you've seen some pictures of Macintosh in these slides. But what I'd like to do now is show you the Macintosh in person. And all of the images that you will be seeing will be generated by what's in that bag right there.
Voilà pour cette rapide présentation des caractéristiques très particulières du Mac en ce 30 janvier 84. Qu'est-ce que ça vous fait à tous les deux déjà de repenser à ce moment, cette fin janvier 84, à Jobs, à ce moment-là de sa vie, de sa carrière et de l'histoire d'Apple?
Bah, moi, ça me rappelle plein de choses, plein de souvenirs, hein, parce que c'est une époque où nous-mêmes, on était déjà dans ce métier, dans cette industrie, et donc on travaillait déjà avec Apple depuis 3 ans. 4 en fait, en 1984. Et ça me rappelle plein de souvenirs, parce qu'en plus, c'était vraiment des lancements incroyables. À l'époque, on était de vrais partenaires. On travaillait tout le temps avec Apple, tout le temps. Et j'ai eu la chance, en particulier, de rencontrer une partie de l'équipe qui a travaillé sur le Mac. Hein. Donc, qui, pour moi, c'était tous des super-héros, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Et avant qu'ils quittent Apple, parce qu'eux-mêmes sont partis quelques années plus tard dans des boîtes mythiques comme General Magic ou comme chez Radius, etc. Je crois que l'aventure, la création de ce Mac a été tellement épuisante pour les gens qui travaillaient avec leur t-shirt « on travaille 90 heures par semaine et on aime ça », bon, dit en anglais, qu'après le lancement, une bonne partie de l'équipe est partie d'Apple, pas tous, hein, mais une partie parce que c'était trop, c'était un moment, ils se sont dit on ne pourra pas faire mieux dans notre vie, donc, en tout cas pas chez Apple, et ils sont partis faire d'autres choses. Quelques-uns sont restés, heureusement.
Bill Atkinson est resté, et il a fait les piles HyperCard, qui avaient des mots sur lesquels, ou des images sur lesquelles on pouvait cliquer pour naviguer à l'intérieur des piles, et qui étaient en quelque sorte la préfet.
HyperCard.
Et c'était la préfiguration, ce qu'allait devenir Internet, en fait.
Ouais. Oui, parce qu'HyperCard, en fait, c'est une des plus belles applications que j'ai utilisées en 43 ans, même s'il était noir et blanc. Mais ce concept de pile, le concept de lien d'hypertexte, hein, déjà, tout ce qu'on pouvait faire avec au niveau éducatif, etc., etc., ça reste vraiment... Et l'élégance de cette appli, pour moi, elle est juste magique, quoi. Vous pouvez l'utiliser maintenant dans des émulateurs du domaine public qui émulent macOS, et on peut mettre de l'HyperCard dans certains endroits et permettre de revivre ça, cette expérience. Ouais.
Gilles, si on revient sur ce moment du lancement, d'abord devant les investisseurs, puis le public, les journalistes, etc., le moment qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? C'est un moment que tu as vécu, toi, à distance à l'époque, ou tu as pris conscience de ce qui était en train de se passer plusieurs semaines ou plusieurs mois après? Il n'y avait pas encore les réseaux, il n'y avait pas encore Internet, etc. à l'époque, hein, faut quand même le rappeler.
Oui. Plusieurs semaines après, quand je l'ai vu, que je l'ai utilisé, où j'étais chez un revendeur, l'équivalent de MCS, mais à Bordeaux, c'était un copain d'une amie à moi qui avait dit, il faut que tu montes ça à Gilles, il faut. Et Le gars, pour la petite histoire, travaillait chez IBM. C'était le moment où il y avait encore une usine IBM à Bordeaux. Et il était forcé de reconnaître que le Mac battait à plat de couture tout ce que pouvait proposer IBM à ce moment-là. Et, on va dire après également. Mais donc je l'ai vu en février, je crois, ou fin février ou début mars.
Pas mal.
Et j'étais absolument scotché. Et c'est ensuite où je suis devenu complètement complètement accro. Il y a une dimension anthropomorphique que Steve Jobs joue à fond dans sa présentation. On est de l'ordre de la filiation, du démiurge, quand il présente le Mac et qu'il ouvre et qu'il le fait parler. Et il le fait parler, alors je vais raconter une anecdote. Il fait parler avec un soft qui s'appelait Snoof Talker. J'avais des cours de maths en première année parce que j'étais une bille finie et je me sentais pas de faire des stats à la fac sans prendre du soutien. Et le prof qui était Monsieur Duvin, qui était prof en classe prépa, avait lui-même un Mac et son fils était programmeur pour Mac. Et donc de temps en temps, d'une semaine à l'autre, il me disait: la semaine prochaine, amène une boîte de disquettes. Donc je me pointais avec une boîte de disquettes vierge et je repartais avec la semaine d'après avec une boîte de disquettes pleine avec les copieurs de programmes, puisque les programmes étaient protégés à l'époque. Et donc il fallait plusieurs versions du copieur et il y avait plusieurs copieurs en même temps parce que il y avait un jeu de chat et de la souris pour la protection des programmes. Et Windows s'est imposé parce que les programmes n'étaient pas protégés. Et les gars qui avaient des PC disaient: mais t'es con d'être, passez-moi l'expression, d'être sur Mac, avec un PC, on ne paie pas les programmes. Ouais. Donc je reviens avec à mon Smooth Talker, que j'ai trouvé une fois dans une boîte assez vite, et je montre tout fier le Mac à mon oncle qui était prof et qui m'avait permis de l'avoir avec la réduction enseignant
à l'époque. Qui à l'époque était importante, hein.
C'était 30%, c'était tu l'avais pour le prix d'un 128, en fait le 512. Et puis le premier truc qu'il a, il est prof d'anglais, donc il était ancien plus jeune agrégé de France. Je lui montre le truc, je lui dis: tiens, c'est un synthétiseur vocal, écris ce que tu veux, il va le dire en anglais. Et puis, avec un grand sourire, il tape: hello you motherfucker.
Ça a marché.
Et il l'a dit.
Ça a marché avec son ton.
Alors justement, ce moment où Steve Jobs fait parler le Mac pour la première fois, c'était aussi sur la scène le 30 janvier 84. Juste avant, il a lancé la fameuse démo en mettant la disquette dans le Mac, la démo qui fait défiler le traitement de texte, peut-être le Photoshop ou le
Mac Paint
V1 avec le tableur, etc. Le mot Macintosh qui passe de droite à gauche avec ses très grosses lettres qui traversent l'écran, déclenchant un tonnerre d'applaudissements. Et donc quelques minutes après, il se dirige à nouveau vers le Mac, cette fois pour le faire parler.
Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't lift. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
Bon, on comprend pas tout. C'est vraiment l'ancêtre de Siri, hein.
Oui.
la voix a encore besoin d'être améliorée. Mais à l'époque,
You motherfucker. You motherfucker, je te confirme qu'on le distinguait parfaitement.
C'est ça. En tout cas, à l'époque, c'est difficile de se remettre dans le contexte, mais c'est une révolution totale. Mais tout, l'interface graphique, la souris, le copier-coller, le format lui-même de l'ordi est complètement dingue, la disquette.
En fait, non.
Alors, il faut dire qu'il y a un synthétiseur 4 voix.
Non, mais c'était pas au niveau de... Toi, t'es resté branché sur ton speech, mais non, toutes ces technologies, c'était pas la première fois, parce qu'en fait, ces technologies étaient dans le LISA, donc oui. Un an avant. Et moi, ce qui m'a le plus surpris dans toute cette période de ma vie, c'était le LISA, parce qu'après, j'ai travaillé sur le Mac et j'ai eu le Mac. Le Mac, c'était un LISA qu'on pouvait se payer. C'est un tout petit peu... Le Vision Pro d'aujourd'hui par rapport aux lunettes Apple qui sortiront dans quelques années et qui seront peut-être à moins de 1000 euros. C'est ça le truc.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Jobs commence en disant le système du Mac, c'est LISA en fait. C'est le système du LISA.
Absolument.
Il commence par dire ça. Comment est-ce que toi, Ellie, tu as eu ce premier contact 6 mois avant ce 24 janvier 84 en France avec un Mac?
Oui, ça a été, c'est toute une cascade d'événements, mais je vous les résume. Quand on a démarré, nous, la société en 1980, on travaillait sur un Apple II, on était programmeur. Et en tant que développeur, on faisait des logiciels de gestion, puisqu'on sortait d'une école de commerce. Il n'y avait pas en France, puisqu'il fallait des logiciels français, la paye française, la compta française, etc. Ce n'était pas les trucs américains. Donc, il n'y avait pas de logiciels. Donc, on savait faire. Donc, on a commencé comme ça et on travaillait vraiment en étroite collaboration avec Apple France à ce niveau-là. Après, derrière l'Apple II, Apple travaillait sur 2 projets secrets. À l'époque, on ne les connaissait pas. Un qui s'appelait Sara. Sara, c'est devenu l'Apple III. Et Lisa, qui est devenu le Lisa. Et donc, l'Apple III, qui était un ordinateur professionnel pour Apple, quand ils l'ont sorti, personne ne savait programmer. Le système s'appelait Exerce SOS, parce que Steve avait fait en sorte que les deux produits soient totalement incompatibles. Il ne voulait pas qu'on puisse utiliser une appli Apple II sur un Apple III et vice-versa. Donc, personne ne savait programmer, sauf nous, parce qu'on s'y était mis et donc on faisait partie des quelques personnes qui travaillaient dessus. On a commencé à travailler avec Cupertino. Donc, c'était une étape au-dessus. Après, il y a eu la présentation du LISA public. Là, on ne l'avait pas vu avant. Et pour moi, ça a été une véritable révolution. Ça a été un choc parce que l'interface utilisateur était tellement en avance et tellement différente. Moi, ça m'a, j'en rêvais tous les jours. Toutes les nuits, je rêvais dans LISA pendant des semaines. Et... là, on a pris une décision stratégique, c'est que si on voulait distribuer le LISA, Steve exigeait que dans les magasins qui allaient vouloir le distribuer, il y ait 2 showrooms, un qui avait des Apple II, des Apple III, des PC, Apple n'était pas encore monomarque, mais il voulait un deuxième showroom où il y ait une table en marbre, un pot de fleurs et un LISA et rien d'autre. Pas de chaise, rien. Donc, c'était incompatible avec la plupart des boutiques informatiques. Et nous-mêmes, on a dû changer. On était à Cannes au départ. On est venu à Nice parce qu'on a trouvé une boutique qui avait 2 showrooms. Et tout le monde nous a traités de fous. Ils ont dit non, mais l'avenir, c'est IBM. Qu'est-ce que tu vas te lancer dans ce truc-là? Et puis nous, on a dit non, mais le futur, c'est l'interface graphique utilisateur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on est venu. Et donc, on est fait partie des gens qui ont compris cette interface utilisateur. Et on a eu d'ailleurs un prix, on a été meilleur vendeur de LISA en France, produit à 80 000 francs à l'époque. C'était au-delà du Vision Pro. Donc, avec tout ça, donc moi, je suis passé dans la partie programmation du LISA, parce que c'était en langage objet. C'était le premier ordinateur qui fonctionnait en langage objet. Ça s'appelait le Classcal, donc un Pascal orienté objet. Et Apple a formé 5 personnes cette année, en 83. 2 personnes d'Apple. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais ils sont très très connus dans l'univers Apple, et 3 personnes extérieures, dont moi. Donc on a appris avec des mecs de Cupertino à programmer en langage objet, etc. Donc on n'était pas nombreux, on était 3. L'été 1983, je reçois un coup de fil d'Apple qui me dit « Est-ce que tu peux venir aux Ulysses cette semaine ?» Ils étaient encore aux Ulysses. Donc, comme j'y allais pratiquement toutes les semaines pour une autre chose et d'autre, j'avais une carte d'abonnement R-Inter de l'époque. Je ne t'explique pas, j'avais des miles. Et donc, j'ai débarqué en pensant qu'ils allaient me parler de Lisa ou de trucs comme ça. Et donc... Bruno Rive, qui était le patron du marketing et en même temps le patron de l'équipe produit Apple, me dit « Viens, on va aller dans le bunker ». Ils avaient un bunker sécurisé, etc., donc en plein milieu du bâtiment. Et en fait, il me montre un sac vert, donc ce sac que tout le monde a vu depuis. Hein, donc,
là, on est à l'été 83.
Été 83.
Donc 6 mois avant.
Ouais. Oui, il me montre ça, il me dit « Tu sais ce qu'il y a là-dedans ?» Ben non, aucune idée, ça avait une forme bizarre. Hein. Donc, et là, il sort du sac le Mac. Donc, et il me dit...
J'aurais
voilà.
tellement aimé voir ta tête.
Ah mais moi j'étais comme ça. Et il me dit, voilà, on sort ça l'année prochaine. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler dessus? J'ai dit oui, bien sûr. Il dit, bon, t'as de la chance parce qu'il va y en avoir 3 en France. Tiens, tu peux repartir avec. Et donc, me voilà revenant à l'aéroport avec un Mac avec des NDA de la mort. On ne pouvait pas en parler ni à nos copines, ni à nos autres employés, ni à personne. Et pour passer, pour rentrer dans un avion, heureusement, ce n'était pas les mesures de sécurité d'aujourd'hui parce que ça ne passait pas. Hein. Donc, je suis passé un Paris-Nice avec le truc en cabine à côté de moi et personne ne l'a ouvert à la douane ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était assez fou. Et donc, j'ai débarqué comme ça dans la société. Et pendant 6 mois, mon frère et moi, on a travaillé. Donc, on a un local aujourd'hui qui était une ancienne Société Générale. Donc, ouais. On y est encore aujourd'hui. Et donc, il y a le coffre de cette banque qui à l'époque, était resté, qui nous permettait de stocker des choses. Donc, on a mis ce Mac. Le plus dur, ça a été de trouver un transfo. Parce qu'à l'époque, un transfo 110-220, c'était une sorte de batterie de voiture, ouais. Un truc qui pesait. Un bon. Donc, une fois qu'on a... Parce qu'on ne pouvait pas le transporter dans l'avion, ça aurait été un peu compliqué. Donc, on a trouvé le transfo qui allait bien et tout ça. On a pu le mettre en marche sans le griller. Donc, déjà, c'est bien. Et donc, pendant 6 mois, on a travaillé derrière un rideau. Donc, les gens nous voyaient arriver le matin, nous enfermer dans le coffre. Et ressortir quelques heures après, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont fous tous les deux. » Ils disaient « Qu'est-ce que vous faites ?»« Non, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous en parler. » Et donc, pendant 6 mois, on a travaillé sur ce proto. On discutait beaucoup, évidemment, avec Apple. Et le lancement du Mac en France s'est fait à Nice. Bon, c'était un hasard. Hein. Nous, on n'intervenait pas là-dessus, mais c'était à Nice, donc c'était bien. Et donc, on a pu présenter parmi les 10 applications françaises, la moitié était à nous. Donc, on avait fabriqué un logiciel de facturation, on avait fabriqué un logiciel graphique qui était assez rigolo. On avait dessiné un poste de télé avec la loupe du Mac. On passait la télé, la loupe sur un aquarium et on voyait dans la télé ce qu'il y avait dans l'aquarium. Ça ne servait à rien, hein. C'était juste pour montrer les capacités graphiques parce que c'était du temps réel. Wow. Et donc voilà, donc des applis de gestion, on avait écrit, puisqu'il existait un programme qui a été annoncé en même temps que le Mac chez Microsoft qui s'appelait Multiplan, qui était un tableur, mais sans graphique, hein, Multiplan. Et donc nous, on a fait... un graffeur où on faisait du copier-coller de multiplans et on affichait donc des courbes, des camemberts, des choses comme ça. Donc, c'était très pratique pour les entreprises. Après, ils ont sorti Excel. Hein, donc, ça a un peu tué notre produit à nous. Hein. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on ne pouvait pas programmer facilement sur un Mac. Alors, plein de gens savaient programmer sur un
Apple II. Oui, j'allais te demander en quoi tu développais.
On partit en assembleur, mais pas moi directement. Donc, on travaillait avec quelqu'un qui connaissait bien l'assembleur et on partit en langage objet. Mais le Mac fonctionnait avec un BASIC fait par Wozniak de l'Apple II. Donc, il permettait de faire des choses, mais pas de graphique. Parce qu'ils n'avaient pas mis un certain nombre de commandes qui étaient dans le BASIC de l'Apple II. Et donc, on a fait appel à quelqu'un qui était un programmeur très, très fort qui était à Paris. Il nous a écrit une interface pour émuler les commandes de l'Apple II sur le Mac, en particulier le PIC et le POC, qui permettaient de savoir si un point à l'écran était allumé ou éteint. ce qui, si tu faisais un POC de X à Y, ça traçait une ligne de droite. Mais pour savoir si c'était occupé, tu pouvais faire un PIC pour dire est-ce que cette case est allumée ou éteinte. Bon, des routines comme ça. Et donc, on a pu, grâce à ça, écrire un logiciel de gestion boursière qui traçait des courbes de tendance, etc., etc. Donc, voilà. Voilà cette histoire. Et donc, c'est là qu'on a pris la décision, en 84, de miser l'avenir de la société sur Apple. Et plus on vendait de Mac, plus on développait des choses, plus on travaillait dans l'environnement Apple, ce qui fait qu'on vendait de l'IBM à l'époque. On vendait du Mac et de l'IBM. Et on a fini par convaincre Apple qu'il fallait un réseau monomarque, etc. En 89, hein, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais en 89, on s'est payé le luxe, hein, si on peut dire comme ça, de dire à IBM, merci, mais on va arrêter de travailler avec vous. Je pense qu'ils ne s'en sont jamais remis. Pourquoi ? Et c'est là où on est devenu Apple Center et tout ça. Mais voilà, donc c'était un moment assez incroyable parce que... Oh. En 85, les premières expos où Apple présentait le Mac, le CECOB, puisqu'il n'y avait pas d'Apple Expo encore, hein, la première, ça devait être en 84, je ne sais plus à quelle époque. Donc, le CECOB, je crois que c'était en septembre, si je me rappelle bien. Et il y avait le stand Apple. Ben, sur le stand Apple, il y avait des gens d'Apple France et nous, hein, puisqu'on avait les logiciels et on connaissait le produit. Donc, on a fait l'expo avec eux, c'était tous des potes et tout. Et c'est dans cette expo-là qu'on on était en train de faire nos démos. Et puis, il y a un mec qui regarde notre logiciel graphique, etc. Ça l'amuse. Et il fait « Bonjour, je m'appelle Bill. » Et je me tourne et je vois Bill Atkinson derrière moi qui me dit « C'est marrant ce truc-là. Est-ce que je pourrais l'avoir ? J'aimerais bien le montrer à Andy. » Je vais Andy, moi j'étais à genoux, disant « I'm not worthy
». On dit Hersfeld.
Ouais. Je lui ai filé une disquette et il a dit qu'il l'emportait pour le montrer à ses potes. Bon, ça faisait pas grand-chose ce truc-là, hein, par rapport à ce que faire. Mais bon, voilà, ça je pense que c'était... Quand j'ai vu Bill Atkinson à côté de moi, je sais pas si je me suis pas évanoui ou quelque chose, mais enfin, c'était un truc, c'est du jamais vu, quoi. C'est...
Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu te disais pendant ces 6 mois où tu l'avais dans ton coffre-fort et où tu découvrais la machine et ce qu'elle pouvait faire?
Bah,
est-ce que tu te rendais compte
de
la révolution?
Bah, déjà, on travaillait depuis plusieurs mois sur le Lisa, donc on était en plein dans cette interface graphique, mais on se rendait compte qu'avec un Mac, avec ses limitations, parce que je t'assure que installer une appli sur le Mac... Bon, on avait connu pire avec l'Apple II, mais sur le Mac, il fallait mettre la disquette système, puis la disquette de l'appli, et donc faire certain nombre de permutations de disquette, parce qu'automatiquement, elle était éjectée, il fallait mettre l'autre, etc.
4.
Et je pense que le record, c'était 40 ou 50 insertions de disquette pour arriver à avoir le logiciel à l'écran. Donc, il fallait avoir une certaine patience. Donc,
c'est au minimum, pour ça que... c'était 4.
Hmm? Oui.
Au minimum, donc, c'était 4, oui.
Parce que sinon, il fallait faire tenir le programme dans la disquette du système. Mais ça, c'était compliqué. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place. Mais à part ça, nous, on se rendait compte qu'on allait pouvoir faire plein de choses. Et assez vite, derrière, il y a eu l'arrivée des premiers disques durs, puisque justement, un des membres de l'équipe initiale est parti créer la société Radius. Et Radius, entre autres, fabriquait des écrans externes et fabriquait des disques durs. Qu'on pouvait mettre à l'intérieur d'un Mac. Et là, mettre un disque dur à l'intérieur d'un Mac, ça, c'était juste la folie, quoi. C'était une révolution. Donc ça, c'était bien. Et puis après, est arrivée la LaserWriter. Et là, pareil, la LaserWriter, c'était la naissance de la PAO. Et pareil, moi, j'ai eu la chance, dans une de ces expos Apple, où j'étais sur le stand Apple, de voir arriver quelqu'un qui nous a présenté une bêta de PageMaker. Donc, il était venu, il cherchait des contacts chez Apple. Bon, à Paris, pourquoi pas. Et c'est lui qui a créé la société Aldus, qui est devenue ensuite Adobe, etc.
Eh oui. Ben oui. InDesign, c'est l'héritier de...
Ben non, c'est PageMaker. PageMaker, c'est devenu après... j'ai oublié le nom des logiciels chez Adobe. Mais Mais oui. Et donc, pareil, hein, donc, c'était un échange cette fois-ci. C'est lui qui nous avait filé une disquette avec la version bêta de PageMaker. Donc, il était revenu. Alors, le fait de pouvoir faire des colonnes à l'écran et de pouvoir faire un mini-journal et tout,
Ouais.
ça, c'était magique, hein. Et après, on a eu la LaserWriter et donc, on pouvait sortir et on sortait, nous, des. Je les ai encore, hein, des magazines qu'on envoyait à tous nos clients par la poste. Hein. Une fois par mois, ils avaient un MCS News qui était imprimé sur une imprimante laser Apple où on racontait. Donc, tu vois, à l'époque, ça s'appelait MCS News, tu vois, comme quoi on était déjà dans les news. Et j'ai
Incroyable.
sous les yeux un exemplaire que j'avais fait pour la naissance de ma fille en 89, où j'avais fait une parodie de Libération, que ça avait appelé Libé Bébé. Et où j'annonçais la naissance de ma fille et que j'avais imprimé bon,
Eh
des
oui,
petites histoires.
Libé, c'était un des premiers quotidiens français à passer à la PAO sur Mac, hein,
Ben
je
nous,
crois,
on
à
a
l'époque.
équipé Nice Matin. À une époque, il y avait plusieurs
Ouais.
centaines de Mac à Nice Matin. C'était un des journaux les plus en avance.
Waouh.
Bon, ça n'a rien à voir avec la sortie du Mac, mais à titre juste d'anecdote, Nice Matin, on avait réussi à faire un flashage de page totalement numérique. C'est-à-dire que sorti du Mac, on flashait une page de Nice Matin. Et le syndicat du livre, CGT, qui à l'époque avait des contraintes extrêmement fortes, prenait cette page, la coupait en morceaux et la faisait recoller manuellement par des employés parce que la page ne pouvait pas sortir. Donc en fait, on avait une page parfaite qui sortait d'une imprimante et qui était découpée, morcelée, recollée. Et ensuite, c'est comme ça, hein. Ça a duré quelques années. Après, ils ont quand même gagné, mais. C'est assez magique ce qu'on peut faire avec un ordinateur et détruire après pour préserver l'unité syndicale.
C'est
La
sûr.
CGT du livre, c'était quelque chose, hein, dans les années
Oui. Oh, c'est
90.
toujours. C'est toujours.
Je pense aussi.
C'est toujours.
Est-ce
Gilles,
que
toi.
InDesign vous dit quelque chose? Oui. Bah oui.
Bah oui. Bah oui, je viens
Et
de le
c'est le nom que
citer.
vous cherchiez tout à l'heure.
Non, non,
Ah non, je mais
l'ai cité.
Benjamin l'avait dit, mais je n'avais pas percuté qu'il l'avait dit
Ah,
avant moi.
pardon.
Oui.
Gilles, toi, ton premier contact avec le Mac, donc quand tu l'essayes dans ce magasin de revendeurs, raconte-nous ton
Ah ben
souvenir, ton
si,
sentiment,
si
qu'est-ce
t'avais
que.
pas vu un Lisa, ça devait être un choc, hein, parce que c'est vrai
Oui,
que.
c'était un truc absolument. Un truc du coup de foudre amical, dans la mesure où. J'ai senti que c'était le compagnon de travail, de jeu, de détente et de création qui allait me suivre toute ma vie, quoi. Et effectivement, c'était ça. Il y a un truc, alors au départ, vous y allez, enfin, moi j'y allais extrêmement avec précaution. Le revendeur était vachement sympa. Il m'avait confié son dessin pour un dessin assez complexe qu'il avait fait point par point, un truc de pirate. Je me souviens qu'il était vachement bien. Et quand on était à 100%, on voyait les pièces, les courbures des pièces en perspective qui étaient rendues avec les points noirs. J'avais fait un peu de ZX80 avec toutes les peines du monde avec les commandes de print pour afficher un mot à l'écran. Et là, ça n'avait rien à voir du tout, du tout. Enfin, c'était des années lumière en avant. Et Eh oui. il y a petit à petit un truc d'apprivoiser la machine, et la machine qui apprivoise également l'utilisateur, et une confiance qui vient en 5 minutes, vous savez l'utiliser, avec les boutons à cliquer, le truc annulé, vous n'enregistrez pas, vous annulez, si vous voulez revenir en arrière, enfin il y a un droit à l'erreur en plus. Et donc, il y a cette dimension projective, anthropomorphique qui est là, et qui fait que vous êtes captivé par ce truc qui vient du futur, quoi, qui vient de l'avenir, et puis vous vous l'appropriez en fait.
Et cette technologie-là, justement, ça, c'est Bill Atkinson qui avait créé pour le Lisa quelque chose qu'Apple avait breveté et que Sculley a ensuite cédé à Microsoft parce qu'il n'avait certainement pas compris l'importance, qui était ce terme de région. Parce qu'on savait faire des carrés et des rectangles. On ne savait pas faire des fenêtres qui se superposent l'une à l'autre et on ne savait pas faire des régions, c'est-à-dire des formes irrégulières. Aujourd'hui, vous prenez sur un dessin, vous prenez le lasso et vous faites la sélection que vous voulez. Et cette sélection, vous pouvez la copier, vous pouvez détourer des photos, etc. Mais ce concept de région, c'est un brevet Apple. C'est Bill Atkinson qui avait fait ça et c'était un truc prodigieusement compliqué à faire. Et dans les anecdotes qui se trouvent dans les bouquins, il se trouve que ce programmeur fou a eu un accident d'avion. Et il était à l'hôpital et il craignait qu'il ait perdu la mémoire. Et donc, il était dans le coma. Hein. Et donc, Steve Jobs, à l'époque, était à côté de lui sur son lit quand il s'est réveillé. Et la première chose qu'il a dit à Steve en se réveillant, c'est « Steve, je sais encore faire des régions ». C'était un truc de fou. Et donc ça s'est retrouvé après dans la ROM du Mac, parce que c'était très important que ces routines très importantes pour Apple soient en ROM.
Ben oui.
Ça m'a fait planter des trimestres. Le trimestre sur le, où on parlait de la mémoire, je n'arrivais pas à comprendre ce qui était décrit avec le système de Mishkin et de Baddeley à l'époque. C'était l'architecture que on a utilisé ensuite avec le PC. Mémoire vive, mémoire de masse, le processeur, et puis éventuellement les périphériques tout autour. Le Mac ne fonctionnait pas du tout comme ça, puisqu'il y avait des routines, une sorte de... comme un instinct auquel le programmeur va faire appel, et donc il n'y a pas à écrire. C'est pour ça que le passage du Mac... 128, 512 au Mac Plus, c'est fait dans la douleur parce qu'il y avait un tas de petits rigolos qui s'étaient affranchis de cette nécessité d'utiliser les routines qui étaient dans la ROM, qui étaient dans la black box, on appelait ça, et qui avaient fait leur propre fonction, et ça ne fonctionnait plus sur le Mac Plus. Et Apple était tellement en avance que en 89, le prof qui était très très en pointe, qui s'appelait Robert Jaffar, nous parle d'un nouveau modèle qui réconcilie les deux modèles précédents qui étaient incompatibles, en parlant de mémoire de garçon de café. Et c'est comme on a un truc entre la mémoire vive et la mémoire de masse qui est disponible et au cas où on en ait besoin, comme une desserte par rapport au placard avec avec la vaisselle. Et c'est comme ça que fonctionnait le Mac et qu'a fonctionné le disque dur le Fusion Drive, même si c'était pas extrêmement pertinent et efficace non plus dans la nouvelle version, mais ils ont toujours été extrêmement en avance.
Bon, voilà pour cet anniversaire, 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. En tout cas, c'est toujours une émotion de revoir ces images de Steve Jobs sortant du sac, le Mac, pour la première fois en public. Et puis, le Mac, il est toujours là. Alors, je viens de faire un tour sur le site d'Apple, le site Apple aux US. On n'est pas encore le 24, donc j'imagine qu'il y aura quelque chose demain pour fêter cet anniversaire. En tout cas, bon anniversaire au Mac. Moi, je pense que de tous les produits Apple, ça reste celui auquel je suis le plus attaché, plus que l'iPhone, plus que les autres. Donc je suis très très heureux des virages pris ces dernières années avec les processeurs Apple notamment et les MacBook Pro 14 et 16 que j'adore. Un petit message important pour vous: si vous appréciez notre travail, on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir et rejoindre la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aiderez ainsi à continuer cette belle aventure. La page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. On en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent déjà, et on a besoin que vous soyez encore plus nombreux pour aller encore plus vite dans notre développement. On passe au journal de la semaine et notamment à ces mises à jour qui sont arrivées en cascade, comme d'habitude. En ce lundi soir, mise à jour 17.3 pour iOS, iPadOS, tvOS, HomePod, on dira un mot après de WatchOS et de macOS. Ellie,
yes.
ça va bouger assez vite parce que la mise à jour suivante est déjà dans les tuyaux, hein.
Oui, absolument. Donc, on vient à peine d'avoir les 17.3, qu'on sait déjà qu'il y aura une 17.4 dans quelques semaines, parce que dans la 17.3, il n'y a pas la version de l'App Store qui permet de faire du sideloading. Or, l'Europe a mis une date butoir qui est le 6 mars. Donc, ça veut dire qu'au moins en Europe, il y aura une 17.4 avant le 6 mars. Et je pense que les premières bêtas pour les développeurs vont arriver dès la semaine prochaine, hein, donc ça ne va pas tarder.
Et oui, le sideloading, c'est donc la possibilité d'acheter des applis sur un autre magasin que l'App Store.
Absolument.
Hein, donc ça arrive, ça va être l'événement du mois de mars, hein, entre autres.
Oui, après on ne sait pas qui aura un App Store et qu'est-ce qu'on trouvera comme apps. Bon, on trouvera certainement du Fortnite, je pense. Vu les liens amicaux entre les deux sociétés, mais pour le reste, on ne sait pas encore.
Alors, dans cette 17.3 d'iOS, on trouve des fonctions qu'on attendait dans les versions précédentes, notamment les playlists partagées sur Apple Music. Et puis, il y a notamment cette nouvelle fonction qui protège les iPhones en cas de vol.
Oui, et ça, c'est très important et c'est très facile à mettre en place parce que, rappelez-vous, on vous a expliqué à plusieurs reprises à quel point c'était facile de s'approprier un Mac simplement en regardant quelqu'un qui tape son code dans un bar, etc. Et qu'après, on change le mot de passe de l'Apple ID et en fait, on est propriétaire non seulement du téléphone, mais on est propriétaire, y compris des mots de passe, etc. Donc, c'était extrêmement dangereux. Et on s'est dit, mais comment c'est possible qu'une boîte qui prend tellement au sérieux la sécurité ait permis ce genre de choses? Et donc, la réponse d'Apple, c'est que maintenant, ils ont fait quelque chose qui vraiment marche très bien. Et en fait, pour activer cette fonction anti-vol, il faut juste aller dans les réglages. Et dans les réglages, vous allez chercher donc dans Face ID ou Touch ID, suivant votre modèle. Et vous allez trouver un réglage qui permet donc de protéger en cas de vol. Et c'est très bien fait parce que si vous n'êtes pas soit chez vous, soit au bureau, soit dans un endroit où vous allez très régulièrement et que vous définissez comme un endroit safe, en fait, dès que vous allez vouloir faire un réglage, il va vous demander une identification biométrique. Donc, ce n'est pas le code de l'iPhone, c'est votre visage ou votre empreinte. Sans ça, on ne pourra rien faire. Et si jamais vous vous trompez ou ça ne se passe pas correctement, il vous dit « Ok, alors vous êtes trompé, donc vous pourrez refaire une tentative dans une heure ». Donc, ça empêche les gens qui essaieraient de forcer avec plusieurs erreurs donc, de faire ça. Et franchement, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas essayé de me faire voler le Mac encore, mais en tout cas, ça a l'air très, très bien pensé. Et il y a toute une liste, évidemment, de fonctionnalités. On ne peut pas utiliser Apple Pay, on ne peut pas accéder au trousseau, on ne peut pas accéder au mot de passe, on ne peut pas faire un certain nombre de changements. Il y a toute une série, mais très, très bien pensée de fonctionnalités. Alors, évidemment, chez vous ou au bureau, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se faire voler le téléphone au bureau. Ou sinon, vous pouvez déclarer que même au bureau, vous ne voulez pas que quelqu'un touche sans votre visage, hein, ce qui n'est pas quand même très compliqué. Et dans certains cas, vous pouvez décider de le désactiver temporairement ou pas. pour vous faciliter la vie. Mais en tout cas, c'est votre responsabilité. Vous ne pourrez pas vous plaindre à Apple qu'on vous a piraté le compte ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très bien fait.
Ouais, alors je viens d'activer la fonction. Donc j'ai un iPhone 15 Pro Max. Et donc, ça se trouve dans réglages Face ID et code. Il faut scroller jusqu'à protection en cas de vol de l'appareil. Par défaut, c'est réglé sur non. Oui. Et il suffit de cliquer sur la ligne du dessous, activer la protection. On clique juste sur cette ligne et la protection est activée. Il n'y a rien d'autre à faire.
Non, c'est super
donc
simple.
C'est extrêmement simple. Et en dessous, on peut lire cette fonctionnalité renforce ta sécurité lorsque l'iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu comme le domicile ou le lieu de travail. Face ID est requis pour accéder à certaines données et un délai d'attente est nécessaire avant de pouvoir modifier les réglages de sécurité. Voilà.
Exactement.
Donc une extrêmement bonne idée. Donc je vous conseille très vivement d'activer cette fonction sur votre iPhone. Dès que vous aurez fait la mise à jour en 17.3.
Mais surtout, ce n'est pas contraignant parce que comme il y a Face ID, de toute façon, si vous avez besoin de l'utiliser, il suffit que vous ayez votre visage. Hein, donc, ce n'est pas vraiment un gros problème. Hein.
On passe aux autres OS. On va essayer de faire un petit tour rapide hein, juste pour parler des choses qui méritent d'être citées. Est-ce que sur iPadOS 17.3, tvOS, il y a quelque chose à mentionner, Ellie?
Non, il y avait un truc qu'ils ont rajouté, mais sur la plupart des OS que tu n'as pas cité, qui est un fond d'écran pour fêter le Black History Month. Donc, c'est ça, un rapport, comme ils le font régulièrement avec des bracelets Apple Watch, etc. Et donc, dans iPadOS...
T'es passé à WatchOS, là.
Oui, oui, mais non, non, mais dans iPadOS, on peut mettre ce fond d'écran qu'on voit dans WatchOS, qu'on voit dans Sonoma, etc. C'est une des fonctionnalités de nouvel OS, c'est ce fond d'écran. Voilà. Bon. Mais sinon, iPadOS, il y a évidemment la protection et il y a aussi le partage des playlists. Donc voilà, vraiment c'est pareil.
Qu'on va retrouver dans la version 14.3 de macOS Sonoma.
Absolument.
Et sur les HomePod, il y a aussi une mise à jour, mais il n'y a pas de détails de ce qui change. Hein,
c'est comme dans tvOS, Apple s'est contenté, et donc il y a les sites spécialisés qui sont allés voir dans les notes développeurs, etc. Et donc tvOS 17.3 que j'ai installé, hein, donc inclut des améliorations de performance et de stabilité, point. Zéro nouveauté, hein.
Bon, ben voilà pour ces mises à jour que vous pouvez faire. Elles ne sont pas révolutionnaires, sauf pour cette fonction qui augmente la protection de vos appareils en cas de vol. J'avoue que pour moi, elle mérite à être seule de faire ces mises à jour sans attendre. On passe à nos coups de cœur et cartons de la semaine. Allez, une minute chacun maximum. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un carton? Non, Ellie, tu n'as pas parce qu'on se garde pour le bonus.
Yes.
J'ai là-dessus un coup de cœur ou un carton?
Non.
Et ben moi non plus. Et ben voilà. On gagne du temps, c'est merveilleux. C'est la fin de cet épisode 170 d'iWeek la semaine Apple. Si vous aimez notre rendez-vous, abonnez-vous aussi à notre nouveau podcast iWeek Express sur toutes les plateformes, c'est gratuit aussi. Je vous renvoie à l'épisode spécial qu'on a réalisé le 19, donc vendredi dernier, au moment de l'ouverture des précommandes du Vision Pro avec le nouveau membre de la team iWeek, Baptiste Dajon, qu'on retrouvera si tout va bien la semaine prochaine avec un très grand plaisir et peut-être aussi avec notre ami François Le Truédic qui est en vadrouille sur les routes de France. On compte sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis sur Apple Podcast. Et puis bien sûr, toujours patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté, nous soutenir et profiter du bonus qu'on va enregistrer dans quelques instants. Si vous aimez notre rendez-vous, abonnez-vous aussi à notre nouveau podcast iWeek Express sur toutes les plateformes, c'est gratuit aussi. Je vous renvoie à l'épisode spécial qu'on a réalisé le 19, donc vendredi dernier, au moment de l'ouverture des précommandes du Vision Pro avec le nouveau membre de la team iWeek, Baptiste Dajon, qu'on retrouvera si tout va bien la semaine prochaine avec un très grand plaisir et peut-être aussi avec notre ami François Le Truédic qui est en vadrouille sur les routes de France. On compte sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis sur Apple Podcasts. Et puis bien sûr, toujours patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté, nous soutenir et profiter du bonus qu'on va enregistrer dans quelques instants à propos de la fausse vraie arrivée d'Apple Classical sur CarPlay. Merci les amis, merci Ellie.
À bientôt, merci à vous de nous suivre.
Avec grand plaisir et merci pour toutes ces anecdotes et ces souvenirs du Mac en 1983 et 84. Salut Gilles Dounès.
Salut Benjamin Vincent. Et salut Elie Abitbol. À bientôt. Et
À très vite.
À très vite, oui.
Suivez-nous sur les réseaux threads @iweek.news, bluesky @iweek.news.besky.social, X Twitter @iweeknews et toujours sur Mastodon @iweeknews@mastodon.world. Partout un seul hashtag iweek LSA comme la semaine Apple. À très vite pour la suite. N'oubliez pas qu'à tout moment on peut vous retrouver avec un nouvel épisode d'iweek Express rendu indispensable par l'actualité. Sinon, à la semaine prochaine pour l'épisode 171. Salut à tous, à très
bonsoir.
Vite et bon anniversaire.
Bye bye.
Bye yes.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire au Mac.